Le dernier kilomètre émotionnel. Une réflexion sur la musique et la manière dont elle nous touche. Qu'est-ce qu'il y a d'émouvant dans un son? On pourrait se poser la question à partir du son d'un violon, dans la maîtrise la plus parfaite de pianiste de concert, ou à partir de quelques notes de violoncelle. Mais il y a un paradoxe que j'aime beaucoup dans les musiques électroniques, dans le fait qu'elles nous touchent tellement, alors qu'elles sont réputées être froides et mécaniques. Pourtant, elles ont ce don de pouvoir nous accompagner jusqu'au bout de la nuit. Il y a plus particulièrement une chanson de Joachim que j'écoute toujours quand j'ai peur en avion. Il y a au milieu un solo qui commence sur une longue note, et je trouve ce son tellement émouvant. J'aime me concentrer sur les différentes couches de synthé et cela m'aide à passer à travers les turbulences. Alors j'ai pensé à interroger Joachim sur ces questions, de savoir comment on construit le sentiment chaque jour dans un studio avec des synthétiseurs et des boîtes à rythme. Et qu'est-ce qu'il y a de paradoxal chez les musiciens de monter sur scène pour être chaque soir le plus émouvant possible. Bonjour Joachim.
Bonjour Benjamin.
Alors, pour commencer, tu as plein de casquettes, musicien, producteur, DJ, compositeur. Pour commencer, je voulais te demander comment est-ce que toi, tu nommes ta pratique?
Ouais, bah, musicien, ça me convient très bien, parce que c'est de là que tout est parti. Après, j'ai fait plein de choses qui sont possibles de faire dans le domaine musical, soit par nécessité, soit par opportunité. Donc j'ai un label, je produis d'autres gens, je fais de la musique à l'image parfois, des remixes, je tourne en DJ, etc. Mais la base, ça reste la musique. Enfin, c'est ça qui me motive et c'est ça dont je ne peux pas me passer.
Ok, super. Alors dans cette série d'entretiens, je m'intéresse particulièrement à cette question de savoir comment est-ce qu'on construit le sentiment et quels sont les outils qu'on a en tant qu'artiste, auteur, chercheur pour essayer de comprendre voilà, comment est-ce qu'on peut être plus précis ou le plus précis possible avec nos sentiments et qu'est-ce que ça a de différent d'utiliser ces outils là, que vont être les émotions pour être précis dans ce qu'on essaie de dire comparé à d'autres on va dire espaces des sciences sociales où on va utiliser comme la philosophie ou la sociologie, on va utiliser les faits. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le fait d'utiliser les sentiments, les émotions, quand on est quand on fabrique des œuvres d'art, de la musique, quand on est auteur, autrice. Et dans cette histoire, il y a quelque chose qui m'intéresse particulièrement, qui est le studio d'enregistrement, et je dirais même encore plus particulièrement l'endroit de la musique électronique, de savoir comment, avec des. Parce que c'est ce que je pratique moi aussi, et il y a cette question de savoir comment, avec des synthétiseurs, avec ces objets vraiment qu'on dit froids, qui ont cette réputation d'être froid et complexe, comment est-ce qu'on produit du sentiment? Mais alors, pour commencer cet entretien, je vais poser une question assez simple, de savoir comment est-ce que toi, tu as commencé la musique? Est-ce que tu as appris quand tu étais jeune? Est-ce que c'est quelque chose que tu as développé plus tard dans ta vie? Où est-ce que ça commence pour toi, cette vie musicale?
Ça a démarré tout simplement parce que mes parents m'ont mis au piano quand j'avais 6 ans. J'habitais à la campagne près de Paris et j'ai commencé à 6 ans à suivre des cours de piano avec un prof du village. Ensuite, enfin, je ne vais peut-être pas rentrer dans tout le détail du parcours, mais donc ce premier prof m'a un peu inoculé, on va dire, le virus de la musique parce qu'il était très enthousiaste et il m'encourageait beaucoup et il me faisait penser que j'étais une sorte de génie que je n'étais pas. Et ensuite, j'ai eu d'autres profs, on va dire, plus sérieux, dont un qui m'a beaucoup influencé, qui s'appelle Abdelrahman El Bacha, qui est un concertiste assez fameux et qui m'a enseigné le piano de 12 ans à, je sais pas, 18, 20 ans. En parallèle, j'ai fait le conservatoire. Donc j'ai toujours été un peu dans la musique, même si mes parents n'étaient pas musiciens et mélomanes, mais pas non plus ultra. Ils n'écoutaient pas de la musique tout le temps. J'étais plutôt le dimanche de la musique classique et ces choses comme ça. Voilà. Et c'est un peu par hasard que je me suis retrouvé à faire de la musique, parce que cet enseignement, ce cadre de la musique classique, du conservatoire, de l'enseignement théorique, du solfège, etc., c'est pas quelque chose dans lequel je me projetais à long terme, professionnellement. C'est pour plein de raisons. Et puis le jour où j'ai compris qu'on pouvait en fait faire de la musique tout seul, moi j'avais une vision classique. Il faut avoir des musiciens, être un chef d'orchestre avec, enfin je sais pas, il faut être entouré, c'est comment on enregistre, etc. Quand j'ai découvert qu'on pouvait tout faire soi-même à la maison et devenir un petit chef d'orchestre, ce projet très mégalomane m'a complètement emballé et de là j'ai commencé à créer de la musique moi-même. Avec des bouts de ficelle au départ, jusqu'au studio que j'ai aujourd'hui. Ouais.
Et de ces années d'apprentissage, est-ce que tu as gardé des outils? Est-ce que tu continues à jouer du piano de cette manière-là? Est-ce que c'est des choses que tu continues encore à pratiquer?
Je pense que... Bon, évidemment, le fait de connaître un peu le solfège et de savoir faire des accords qui sont pas... qui sont un peu plus élaborés ou hors normes que, enfin, parce qu'en musique électronique, souvent, le truc typique, c'est qu'on n'utilise que les touches noires parce que ça c'est une pentatonique et que ça touche et ça sonne toujours bien. On peut pas faire d'erreur. Donc, c'est presque tous les accords sont sur cette base pentatonique. Ça me permet d'aller un peu plus loin parfois, mais je pense que surtout, et ça, c'est un enseignement qui me vient beaucoup de d'El Bacha, c'est comment concevoir la musique comme une espèce d'histoire ou de tableau. Parce que, en fait, quand j'interprétais des morceaux, enfin, quand j'apprenais des morceaux avec lui et que je devais les interpréter, avant de rentrer vraiment dans la pratique, la technique, de répéter le morceau, de me l'approprier, il me demandait de lire la partition comme si c'était une sorte de scénario et de trouver, moi, l'histoire que je dois raconter à l'intérieur de cette. De trouver moi-même l'histoire, qu'est-ce que je vais raconter. Qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que moi je veux, j'en comprends? Qu'est-ce que je peux raconter avec? Et je pense que cette idée assez cinématique, en fait, de la musique, c'est quelque chose que j'ai gardé en moi sans m'en rendre compte et qui fait que la musique que j'ai créée ensuite électroniquement, il y avait toujours cette idée de narration, de parcours. Et on a souvent décrit mes disques comme étant cinématiques. Mais je ne comprenais pas exactement pourquoi, mais en y réfléchissant, je pense que ça vient de là.
Ah, c'est super, j'adore cette idée de scénario. Quand je réfléchis à ma musique, j'essaie toujours de penser à cette idée qu'un morceau doit apparaître un peu comme une sorte d'aventure. Il faut que ça termine à un endroit très différent de l'endroit où là ça a commencé. Du coup, j'adore cette idée de scénario. C'est un super conseil, je trouve. Je vais y repenser à ce conseil que tu as donné ton prof de piano.
Ouais. Et ça, je pense que ça aussi influence beaucoup ma manière de jouer en DJ. Parce qu'il y a des DJ qui arrivent à tenir un style de musique pendant 2 heures et c'est une sorte de tunnel. Moi, j'arrive pas du tout à faire ça. J'ai besoin de créer un parcours, d'une histoire et d'emmener les gens d'un point A à un point B, C, X, Y, Z. C'est ça qui m'intéresse.
Et tu écris un scénario avant de jouer en soirée?
Non, en DJing, non. En DJing, tu peux essayer de le faire, mais ça ne marchera jamais. Y a tellement de paramètres qui sont du présent, de l'instant, du lieu, des lumières, de la température, du degré d'alcoolémie. Enfin, je sais pas, il y a énormément de paramètres. Donc, ça se fait sur le moment. Mais par contre, c'est extrêmement puissant. Quand on arrive, il y a un moment donné, si ça marche bien et qu'on se comprend qu'on a chopé les gens et c'est presque une forme de chamanisme et qu'on arrive à les emmener ailleurs, quelque part où vous n'avez pas prévu d'aller, là c'est super puissant.
Et dans ta manière de travailler, est-ce que tu utilises la partition? Est-ce que c'est un outil que tu as continué à utiliser après tes années d'apprentissage plus classique?
Très peu. Très peu. Bah aujourd'hui, avec les outils de création musicale, t'as très peu besoin de, enfin, d'écrire une partition, sauf si tu as besoin de la partager avec d'autres gens, en fait. Ou de. Ouais, c'est non. Donc je le fais très peu.
Et est-ce que tu continues à jouer du piano? Est-ce que tu as encore une pratique régulière de piano?
Pas. Non, pas assez. Je pense que je suis un peu en train de revenir à ça. Bon, déjà, j'ai à partir de 21, 22 ans, j'ai arrêté de suivre des cours et j'ai arrêté de pratiquer le piano tous les jours. Donc, j'ai énormément perdu techniquement. Et comme en studio, j'utilise principalement ce qu'on appelle des claviers maîtres ou des claviers MIDI, qui sont pas des claviers avec un toucher lourd ou enfin il n'y a pas du tout la même sensation qu'un piano. Ça se joue, c'est un peu comme jouer avec un jouet. J'ai plus vraiment de pratique pianistique, on va dire. C'est assez rare. Mais depuis quelques disques, enfin depuis que notamment que j'ai fait ce disque à Venise dans l'installation de Xavier Veillant pendant la Biennale, comme il y avait des pianos, il y avait beaucoup d'instruments acoustiques, un clavecin, une onde Martenot. J'ai un peu redécouvert le plaisir de vraiment jouer et de l'interprétation même. Parce qu'en fait, en musique, enfin avec un clavier maître, on n'interprète pas. Il y a pas du tout il y a très peu de nuances. Il y a la vélocité, mais c'est vraiment. Et ça m'a donné envie de retourner vers ça, parce que c'est comme un. Oui, c'est une couche supplémentaire, en fait, dans ce que tu peux exprimer à travers la musique, quoi.
C'est quelque chose qu'on risque d'entendre dans des productions à venir?
Oui, bah ça apparaissait déjà dans ce disque. Enfin, il y a un disque qui est sorti qui est tiré de ces enregistrements à Venise. Et après, dans les disques que j'ai fait, enfin, j'en ai fait un après ou deux, je sais plus. Il y a quelques passages de piano, mais c'est. Et là, ça fait maintenant presque 2 ans que je me dis que je veux faire un disque de piano solo.
Oh!
Mais je trouve jamais le temps de le faire. J'ai un piano ici qui est complètement désaccordé. Je voulais pas l'accorder exprès pour le jouer un peu désaccordé pour ce projet, mais j'ai pas encore trouvé le temps de le faire.
Et dans tes années de formation, est-ce que tu te rappelles d'un moment où tu es passé comme ça, de cet espace de la musique classique à la musique électronique? Est-ce qu'il y a un moment déclencheur, une expérience, un concert? J'ai fait un entretien avec Dina Abdel-Wahed dans cette même série d'entretiens. Elle parle d'un moment où elle est allée en club et où d'un coup le choc d'entendre la musique amplifiée. Pour elle, elle a complètement changé
Ah oui.
ce rapport à la musique. Elle venait plutôt d'un background de jazz vocal. Et d'un coup, la musique amplifiée, d'être entourée par la musique, elle se rappelle comme un moment où tout a basculé. Est-ce que pour toi, il y a un moment comme ça où tu te rappelles de cette bascule, d'un moment où tu t'es dit, tiens, je veux faire de cette musique-là ou travailler dans cet espace-là?
Bah, j'ai jamais réfléchi en termes de topographie comme Dina, enfin de lieu. Mais par contre, je pense que ça joue évidemment un rôle essentiel sur la perception. Est-ce que tu peux. Enfin, je pense que l'idée du son comme médium, du son pu, enfin, que la texture, le son, au-delà des notes, véhicule quelque chose et peut provoquer des émotions. Ça tient beaucoup à l'amplification parce que la plupart des instruments acoustiques, à moins d'en être vraiment très proche, mais quand on est dans une salle de concert, ça, il y a une distance avec le son et ça manque de puissance pour qu'on puisse ressentir certaines choses qui sont possibles que par le volume, donc l'amplification. Enfin, c'est un autre paramètre d'émotion du son, en fait, le volume. Et il y a des groupes qui jouent que là-dessus, quasiment. Oui, les groupes de doom metal, effectivement, dans le club, ça ne fonctionnerait pas du tout si tu avais un petit son.
Mais est-ce que tu te rappelles d'un moment où un concert ou être allé en club, d'avoir comme ça des émotions musicales où ça a basculé, quelque chose en toi a basculé.
Ah bah ça, oui, la première fois que j'étais dans un club, mais je pense que c'est pas uniquement le son, l'amplification, c'est aussi le fait qu'il y ait plein de gens qui écoutent la même chose, qui sont complètement connectés par le mouvement à un son. Et en fait, je pense que l'humain est en recherche de moments de communion en permanence. Et aujourd'hui, où les religions sont très peu importantes pour ça, en tout cas en Europe, c'est un des rares moments de communion qu'on peut avoir, le club. Pour moi, c'est ça qui était l'expérience forte du club. Et ça passe par l'amplification pour que tout le monde puisse être complètement enveloppé dans ce son, mais et parce qu'il y a une et ça ramène la physicalité du son et et dans ce truc de communion, de transe, le physique est extrêmement important.
Et c'est important pour toi, cette physicalité du son?
Oui, moi, la physicalité du son. En fait, je trouve que souvent la musique est trop intellectualisée, enfin, plutôt l'écoute de la musique est trop intellectualisée. On oublie que c'est avant tout c'est des ondes qui nous pénètrent et qui nous font sentir des choses. Donc, ça m'intéresse énormément ce rapport du corps au son et à la musique. C'est pour ça que. Ouais.
Intellectualiser, qu'est-ce que tu entends par là? Est-ce qu'on parle trop de la musique, à ton avis?
Quand je dis intellectualité, ça veut pas dire c'est pas quelque chose de forcément savant, mais c'est le c'est qu'on a une approche trop cérébrale parce qu'on est aussi tellement nourri de culture de parti pris de l'éducation musicale qu'on oublie d'écouter sans a priori de manière complètement naïve et pure la musique et ça change tout souvent quand j'ai des gens qui me disent ah, moi je déteste ce type de musique je comprends pas parce que c'est comme si pour moi la personne n'avait pas c'est pas qu'elle aime pas ce type de musique c'est qu'elle n'a pas pris le temps d'essayer de l'écouter vraiment. Je caricature un petit peu, hein, mais et donc c'est ça que je veux dire par intellectualisation de la musique. C'est pas le fait qu'il y ait de la musique contemporaine très compliquée, par exemple. Mais par exemple le free jazz, qui est une espèce de musique assez élitiste, qui est censée être assez intellectuelle d'une certaine manière. Mais pour moi, c'est pas du tout intellectuel. C'est un mur de son. C'est une sorte, c'est vraiment physique, ouais.
Et comment se passe une journée de travail chez Joachim? Est-ce que tu peux nous raconter? Est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que tu travailles sur un morceau? Qu'est-ce qui se passe le matin quand tu arrives dans le studio? Est-ce que d'abord tu prends un café? Est-ce que tu prends le temps de réécouter les choses que tu as enregistrées la veille? Ou est-ce que tu t'attaques tout de suite à un nouveau morceau en arrivant? Comment ça se passe une journée type de studio chez Joachim, si jamais il y a une sorte de chose qu'on peut appeler journée type.
Bah, ça, c'est très très variable parce que ça dépend sur quoi je travaille. C'est comme si je me mettais dans des états d'esprit différents où j'ai un costume différent. Si je dois faire un remix, par exemple, c'est pas vraiment moi. J'ai l'impression que j'aime bien endosser un déguisement et me dire bah, je vais faire un remix de telle manière. Avec tels ingrédients et donc il y a une espèce d'idée qui précède la réalisation du remix et il y a aussi l'importance de la fonctionnalité du remix. Si je travaille pour moi, pour un album, on va dire, Ça peut aussi varier, mais en général, je prends beaucoup de notes parce que j'ai tout le temps des idées. Je me dis, ah tiens, si je faisais un morceau à tel tempo, et puis il y aurait tel type de son, et puis en fait, ça changerait et ça deviendrait comme ça. Ou des traitements sonores, si je mettais une réverb à l'envers et qu'ensuite je la passais dans ça. Donc j'ai plein de notes comme ça. Et quand je travaille sur ma musique, je repars de ces notes.
Et ça, c'est des notes que tu as prises avec ton téléphone.
Oui, oui. Okay. Mais dans la plupart des cas, l'idée ne marche pas. Enfin, en tout cas, elle se transforme. Ça devient autre chose. C'est très rare que ce soit aussi bien écrit que réalisé. Et après, il y a aussi. Moi, j'aime bien, quand je travaille pour ma musique vraiment, j'aime bien avoir un peu un cadre pour chaque album. Enfin, déjà, j'ai une approche un peu à l'ancienne où je fais des albums, ce qui est de moins en moins. et donc, j'aime bien, par exemple, le dernier disque, Second Nature. S'il y avait cette idée, j'avais lu des livres sur le rapport de l'homme à la nature, Descola et Latour, etc. Et donc, je me suis nourri conceptuellement de ces idées pour créer le disque. Samouraï, c'était Mishima. Et donc, ça me permet de cadrer. Peut-être pas je sais pas conceptuellement le disque, mais après sur le démarrage vraiment concret de la composition, c'est très variable. J'aime beaucoup démarrer par le rythme parce que je suis assez obsédé par le rythme. Donc souvent je pars de rythmique, j'essaie de programmer des rythmiques ou j'enregistre des percussions que je joue moi-même, etc. Des fois ça peut être je sais que je vais essayer de faire tel son avec un synthé et ça va être la première chose où j'ai une idée d'accord. Donc c'est assez variable. Puis il y a des disques, par exemple, pour revenir à celui de Venise, où là carrément j'avais un processus que j'avais mis en place parce que je voulais pas me retrouver perdu dans ce studio. Donc c'était parce que c'était une installation studio où des musiciens étaient invités à jouer et à enregistrer ce qu'ils voulaient. Voilà. Il y avait énormément d'instruments et j'avais que 3 jours. Je me dis, mais si j'arrive là, je ne vais pas savoir quoi faire. Donc j'avais mis vraiment, j'avais créé un processus où je demandais aux gens de m'aider à faire la base de chaque morceau. Donc ils me donnaient un mot qu'ensuite je transcrivais en accord. Ensuite, je demandais une lettre pour avoir la gamme. Et je donnais des petits papiers, ils choisissaient des petits papiers où il y avait tous les instruments. Et puis ça me donnait 3 instruments de base. Donc je savais que je devais démarrer en do mineur avec tel accord et tel instrument, et donc je partais de ça. De toute façon, il faut trouver des astuces pour démarrer, parce que c'est toujours le truc le plus compliqué. Enfin, c'est pas le plus compliqué, non, mais je trouve c'est plutôt finir peut-être, ou c'est le milieu. Mais j'aime bien l'idée de créer des petites astuces comme ça. Qui crée aussi un peu de hasard, ouais. Et après, c'est très instinctif. Je travaille énormément à l'improvisation. J'aime pas refaire des prises. J'aime bien l'idée de l'erreur. J'aime bien garder les choses, même si elles sont pas parfaites. C'est aussi pour ça que je continue de travailler de manière analogique. Bon, ça, c'est peut-être un peu technique, mais quand je mixe des morceaux. Parce qu'aujourd'hui, on peut travailler que dans l'ordinateur. Quand on fait du mixage, par exemple, on travaille dans l'ordinateur et donc on peut revenir à l'infini sur un mix parce que tout est toujours sauvegardé dans l'ordinateur. Moi, je travaille avec des vieilles, une console qui est analogique, donc il n'y a pas d'enregistrement de preset. Et une fois que j'ai fait mon mix, je peux pas revenir dessus parce que j'ai pas noté les réglages, j'ai pas de sauvegarde.
Ah oui, tu fais tout à partir de la table.
Ouais, depuis la console, ouais.
Et est-ce que tu enregistres sur bande?
Non, ça dépend. Sur mes albums, je le fais sur bande parce que j'ai plus de temps et je suis plus perfectionniste. Après, ben, ça change pas grand-chose. Ce qui compte, c'est qu'il y a un enregistreur derrière la console qui enregistre ce qui sort de la console. Mais j'aime bien cette idée que les choses soient fixées dans le temps, ce morceau a été mixé de telle manière, à tel moment, et peut-être qu'il y a des défauts, mais ça représente un moment qui s'est passé.
Ouais. C'est un détail technique pour nos auditeurs et nos auditrices, mais quand on enregistre comme ça, on enregistre en direct, tous les synthés jouent en direct leur partition et on fait une prise avec laquelle on enregistre tout, puis après,
Ouais, c'est
on
ça.
remet tous les réglages de la table à zéro. Et on est prêt pour réenregistrer un nouveau morceau.
Exactement. Voilà, c'est ça. C'est une configuration, c'est un moment de configuration et de éphémère.
Et est-ce que tu peux nous dire combien de temps ça prend, tout ce processus? Est-ce que tu travailles longtemps? Est-ce que ça prend des semaines et des semaines? Ou est-ce que c'est rapide pour toi de faire un morceau?
C'est aussi très variable parce que comme je suis un peu hyperactif et que je fais plein de choses par ailleurs, si je fais que ça, ça peut aller assez vite, hein. Et puis, en général, quand ça va vite, c'est bon signe. C'est quand ça commence à traîner que c'est-à-dire qu'il y a un problème dans ce que je suis en train de faire. Non, mais je travaille relativement rapidement et j'aime pas laisser les choses pas finies, donc je finis tout. Ce qui est assez rare dans le milieu de la musique.
Wow. Tu finis tout, et du coup tout est publié.
Presque tout, ouais. Enfin, et puis c'est pas que je finis tout, ça va même au-delà, c'est que tout sort, enfin ouais, presque.
Donc Prince, c'est son coffre-fort. Pour toi, on va pas retrouver beaucoup de morceaux cachés.
Il y aura très peu de bandes oubliées. Il y en aura quelques-unes, hein, mais ouais.
Et qu'est-ce qui se passe quand ça marche pas? Est-ce que t'abandonnes? Est-ce que tu passes vite à autre chose? Comment est-ce que tu sais que c'est pas un morceau qui va conclure?
Quand ça coince en général, c'est qu'à la base, il y a quelque chose qui n'est pas abouti, ou que j'essaie d'assembler des éléments qui ne fonctionnent pas ensemble. Et surtout qu'au bout d'un moment, on intellectualise trop le process et on oublie l'émotion. Et souvent, il faut repédaler en arrière et dire, OK, qu'est-ce que je veux dire là? Qu'est-ce que je veux exprimer? Qu'est-ce que je veux ressentir avec ce morceau? Et ça, c'est un truc qu'on oublie très facilement parce que, surtout quand on fait de la musique depuis longtemps, il y a le côté technique, enfin, ça devient un peu technique et on a des automatismes, etc. Et on oublie parfois, bah, pourquoi je fais ça? Et quand ça coince, c'est nécessaire de se poser cette question.
C'est marrant que tu parles d'improvisation et de choses faites rapidement. Je suis assez étonné. Dans mon expérience d'auditeur, ce que j'aime dans tes morceaux, c'est les couches d'instruments. J'ai une écoute assez geek et j'essaie de comprendre comment c'est fait. Et je trouve à chaque fois que c'est super complexe. Et j'arrive pas à imaginer que ça puisse être fait rapidement et de manière improvisée. Bon, c'est peut-être un peu ma limite technique, je peux pas imaginer qu'on soit aussi à l'aise avec les instruments.
Non, je vais assez vite et surtout sur la phase initiale où on compose et on empile les pistes et on a des idées. Ah tiens, je vais rajouter ci, je vais faire ci. Ça va assez vite. Ce qui prend du temps, c'est de réécouter 150 000 fois le truc et de comprendre si on l'aime ou pas et pour si on l'aime pas, pourquoi. Et ça peut prendre du temps. Mais ouais, non, j'imagine que je travaille assez vite. Mais j'aime bien, enfin, quand tu parles de complexité, en fait, je sais pas si je pense pas que j'essaye de faire de la musique complexe, mais par contre, j'aime bien cette idée qu'on comprenne pas exactement ce qu'on écoute, qu'il y ait des couches et enfin, ça, en fait, ça tient à moi, c'est-à-dire que je m'ennuie assez vite. Et donc, j'essaie de créer une complexité qui fait que je vais à chaque fois entendre un truc dans le morceau, enfin, en tout cas, c'est ce que je veux chez l'auditeur, qui est plein de niveaux d'écoute et qu'on puisse réécouter beaucoup de fois un même morceau sans jamais complètement le cerner. Enfin, c'est le but. Je dis pas que j'y arrive, mais c'est ça le.
En tout cas, ça marche pour moi. J'arrête pas de réécouter les morceaux pour essayer de comprendre comment c'est fait, pour essayer de comprendre chaque couche, les percussions, les basses, les nappes.
Ah, mais ça, on a tous ça avec des. Moi aussi, il y a plein de gens, je sais pas comment ils font, mais.
Est-ce que tu passes du temps à juste chercher des sons? Est-ce qu'il y a des sons qui t'obsèdent, que tu essaies de retrouver ou de reconstituer?
Ah bah oui, moi je suis complètement obsédé par le son, la qualité du son. C'est pour ça aussi que je travaille avec une console, avec beaucoup de synthés analogiques, etc. Parce que c'est ce type de son qui. Il y a une richesse dedans, il y a un mystère, enfin, un synthé analogique. Et on ne le contrôle jamais complètement à 100%. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est cette part de vie dans l'instrument. Qu'il y a aussi évidemment avec les instruments acoustiques, mais je sais plus pourquoi je disais ça maintenant, mais oui.
Je me posais cette question. Moi, je sais qu'il y a un son d'une chanson de Daft Punk en particulier que je recherche sans cesse, et c'est souvent comme ça que je commence mes morceaux. Est-ce qu'il y a un son que tu cherches qui t'obséderait et que tu n'arriverais pas à, que t'arrives pas à trouver?
Non, bah, je suis jamais complètement satisfait par mon son. Hein. C'est une quête. De toute façon, c'est une sorte de quête qui n'a jamais de fin. Hein. Je dirais pas qu'il y a un son qui m'obsède plus particulièrement. Enfin, il y a des sons qui m'interpelle plus et que j'utilise beaucoup comme les sons un peu de cloche, de métal, enfin, tout ce qui est résonnant comme ça. Parce que j'aime beaucoup les qualités hypnotiques de la musique et je trouve que ces instruments-là sont très hypnotiques, ouais. Ouais.
Alors, je suis très intéressé de savoir pourquoi est-ce qu'on emmène de la musique partout avec nous. À quoi ça nous sert d'avoir toujours, en tout cas souvent, de la musique avec nous. Ça sert parfois de soutien émotionnel dans des moments difficiles.
Dans un avion.
Oui. Je t'ai raconté ça. Il y a cette chanson, l'une de tes chansons, Bring Your Love, que j'écoute toujours quand il y a des turbulences en avion. Elle est pleine de détails et je l'écoute en boucle en me concentrant sur chacune des parties. Qu'est-ce que tu imagines que les gens ramènent chez eux de ta musique ou quand on a passé une soirée à t'écouter en sortant d'un concert ou d'une soirée où tu as été DJ? Qu'est-ce qu'on ramène chez soi après une soirée comme ça?
C'est assez différent, je pense. Les deux choses sont assez différentes pour moi. Pour commencer par le concert, parce que le concert, c'est encore une fois, c'est un moment dans un lieu qui est délimité avec un ensemble de gens. Donc, l'expérience de la musique, pour moi, elle est hyper différente de se promener, d'être en métro et d'écouter avec un casque. Mais je pense sur un concert. Après, en plus, il y a la différence entre concert et DJ set, ce qui est complètement différent, hein, en termes de ce que tu essaies de transmettre, de ce qui se passe avec le public et ça. Mais ce que j'aime bien, c'est l'idée que les gens partent du concert et soient toujours habités par ce qu'ils ont expérimenté. Il y avait, je te disais qu'il y avait une anecdote intéressante à ce sujet. C'était un concert de Lamont Young, compositeur minimaliste américain à New York. Et c'était une pièce avec quatre violoncelles. C'est des pièces très, 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 très statiques où il se passe presque rien. C'est des longues notes qui se chevauchent et qui se frottent les unes les autres. C'est de la pure contemplation. Et il y avait un petit feuillet. Et à la fin du feuillet, il s'était marqué ne surtout pas applaudir à la fin du concert. Et j'ai pas tout de suite compris pourquoi. Et en fait, je l'ai compris en sortant du concert. C'est c'était pour pas briser le continuum de temps entre le moment du concert et après, et la sortie. Et en fait, j'étais avec un ami, on est sorti, et en fait, on était encore dans le... Enfin, c'est comme si le concert continuait en nous pendant des heures après, on était encore dedans. Et je trouvais ça hyper beau comme, comme idée. Et après, pour parler plus des gens qui écoutent, qui écouteraient ma musique n'importe où, bah moi, ce qui m'intéresse, c'est justement ce que je trouve fascinant, c'est à quel point chacun va en retirer une émotion différente et s'approprier la musique pour des raisons différentes. Et des fois, il y a des gens qui me disent « Ah, ça m'a permis, tel morceau m'a permis de passer une rupture difficile. » Ou alors, une fois, il y avait un mec qui venait des Philippines et il était ado et il était un peu seul et il écoutait ma musique en allant au lycée. Et je trouvais ça incroyable, mais je dis comment c'est... Et parce que, enfin, entre l'intention que moi je peux y mettre et éventuellement ce que je veux transmettre par les morceaux et ce que les gens en font, je trouve que c'est là qu'il y a toute la magie, quoi. C'est comme si il y a une forme d'incompréhension, on pourrait dire. Mais c'est ça qui est beau, en fait. C'est la translation, quoi.
Ah oui, ça arrive que des gens viennent te raconter leur histoire.
Ça arrive, ouais, ça arrive assez souvent, en fait, ouais. Ou des fois, c'était un morceau qui était un morceau d'une rencontre. Donc c'est quelque chose qui reste après, souvent les morceaux de rencontre, ouais.
Ouais, moi ça m'est arrivé, j'ai croisé Peter Hook dans un aéroport à Athènes et j'étais super ému. J'ai mis pas mal de temps à oser aller lui parler et pour lui dire que j'avais rencontré mon épouse sur de Puffat Kiss.
Voilà.
Et qu'il a joué un rôle super important dans notre vie.
Oui, bah, ça c'est l'idée que ce que tu crées ne t'appartient pas, en fait, tout simplement, hein, c'est ça, en fait.
Ouais. Et est-ce que tu écoutes beaucoup de musique?
Ah bah, j'en écoute vraiment, mais en permanence. Mais par contre, assez tristement, je pense que j'ai quasiment oublié comment on écoutait de la musique juste pour le plaisir.
Est-ce que tes oreilles sont devenues trop professionnelles?
Bah, non, je pense que ça vient beaucoup de ma pratique de DJ et de collectionneur de disques, et de faire des émissions de radio, etc. C'est que je suis tout en permanence en train de chercher de la nouvelle musique que je pourrais utiliser pour ceci ou cela. Aussi parce que je suis très très curieux de ce qui se fait, ça m'intéresse vraiment. Ce qui sort de nouveau, où on me dit « Ah tiens, t'as écouté ça ?» Enfin, je vais tout écouter. Bah ouais, c'est un peu un problème.
Mais surtout que tu nous as dit que tu étais un peu hyperactif. J'imagine que tu dois pas passer beaucoup de temps à ne rien faire chez toi.
Ça m'arrive, oui, mais c'est quand je... En fait, il faudrait aussi que je change certaines pratiques parce que... Mais ça m'arrive quand je suis chez moi et que j'ai rien à faire et que je vais mettre un disque juste que j'aime bien. Mais c'est très rare. Et puis je suis un peu maniaque de la classification, de l'organisation de ma bibliothèque musicale, qui est maintenant dans mon ordinateur. Hein. Et donc, par exemple, quand je me déplace en ville, ça, j'écoute tout le temps la musique et tout est dans mon téléphone. Mais dans mon téléphone, j'ai que des playlists de morceaux que j'ai reçus récemment, que j'ai achetés ou que j'ai téléchargés, que je check pour savoir si je les garde, si je les garde pas. Si... Donc, c'est du travail. Ouais.
Est-ce qu'il y a des choses particulières que tu écoutes en boucle? Est-ce qu'il y a des sons particuliers auxquels tu reviens sans cesse?
Bah, j'ai des classiques, ouais. Enfin, des choses qui sont vraiment très 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 fortes pour moi. Et c'est pas forcément des morceaux spécifiques. Enfin, State Trooper de Bruce Springsteen, par exemple, des disques de Scott Walker, des choses comme ça, ou l'album de Frank Sinatra et Jobim, je sais pas, certains trucs de musique électronique, ou aussi de la musique classique. Ça, c'est des choses que je vais vraiment écouter religieusement et pour moi.
Alors, on a discuté en préparant cet entretien, l'une des questions qui m'intéresse beaucoup à l'origine de ces entretiens, c'est de savoir comment est-ce que la musique nous touche et qu'est-ce qui nous affecte directement quand on écoute de la musique. Et il y a quelque chose que je trouve particulièrement intéressant dans la musique électronique, c'est ce paradoxe entre quelque chose qui est très fabriqué, très mécanique, et qui en même temps peut être très, très émouvant. Et j'avais en tête cet exemple de Dalida. Ça nous emmène un peu ailleurs. On peut regarder des vingtaines de vidéos quand elle chante Je suis malade. À la fin, elle fait toujours ce coup de poignard, comme ça, voilà, ce poignard, ça remonte comme ça, elle refait toujours ce même geste, et quand elle est en public, on peut regarder plein de fois la chanson, elle refait à chaque fois les mêmes gestes, comme si les gestes font partie de la partition de la chanson, comme s'ils étaient écrits dans la partition de la chanson,
La partition.
et à chaque fois, c'est super émouvant. Et en même temps, c'est une astuce pour être sur scène et pouvoir donner le meilleur de soi-même et pour pouvoir émouvoir les gens sans que ce soit pour elle la performance ultime à chaque fois. Voilà. Alors, je me demande à partir de là. Comment est-ce qu'on construit ces formes de sincérité? Est-ce que c'est une construction? Est-ce que ça peut être une construction? Est-ce qu'on peut construire cette sincérité? Est-ce que toi, tu as des astuces ou des manières comme ça de performer ou de jouer ou d'insister sur des émotions?
Je réfléchis si j'ai des astuces, mais parce que c'est une question hyper importante et qui s'est beaucoup révélée à moi pour le dernier disque que j'ai fait pendant le confinement. Le fait de le faire pendant le confinement, il y avait cette idée qu'il n'y a plus d'enjeu, qu'il n'y a plus, enfin, la musique, il n'y en a plus besoin, il n'y a plus de tournée, il n'y a plus rien. Et donc ça m'a complètement allégé, ça m'a libéré de toutes ces pensées sur ah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, comment je vais le sortir, c'est quoi mon public, ou enfin toutes sortes de questions. Tout à coup je me suis retrouvé à faire de la musique comme je le faisais vraiment au départ. Et quand je me posais aucune question, je savais même pas pourquoi je le faisais exactement. Mais il y avait cette forme de sincérité absolue, de juste je la fais pour moi en fait. Et je pense que c'est un travail, c'est pas quelque chose qui vient à soi comme ça facilement. Il faut avoir une sorte de discipline de la sincérité ou de se le rappeler. Régulièrement de se dire ok, mais pourquoi je fais ça? Parce que plus on a d'expérience, plus on se professionnalise, plus on fait des choses par rapport à des réflexes professionnels. Et là, ça m'a permis de me dire, mais enfin, de remettre à zéro le compteur et de dire ah ben, là, je fais juste pour moi. Et ça a été extrêmement libérateur. Et je pense que j'ai était assez enfin j'étais très inspiré quoi et j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler aussi donc je pense que et ça rejoint ce truc de Dalida, c'est que là, il y a cette répétition, il y a ce travail en fait, parce que la répétition c'est du travail et en fait c'est aussi par ce travail qu'elle arrive à transmettre à chaque fois son sentiment à son niveau maximum. Peut-être que si elle osait en s'en foutant, enfin en se disant ouais, je vais aller sur scène et je vais faire mon truc, peut-être que ça serait beaucoup moins puissant.
Alors c'est en redevenant un peu amateur ou en oubliant un peu le côté pro qu'on arrive à être plus précis.
Oui, enfin là, c'est encore autre chose, parce que c'est le côté. Non, mais là, oui, je me suis un peu. C'est pas exactement la même chose, effectivement. Mais. Enfin, en tout cas, il y a cette idée que tu dois en quelque sorte travailler pour te rappeler pourquoi tu fais les choses. Et vraiment retourner aux sources de l'inspiration et de l'expression artistique, quoi.
Alors, est-ce que les prochaines musiques de Joachim qu'on va entendre, est-ce que c'est des choses avec de plus en plus d'instruments ou
Ouais,
alors avec
bah.
juste un ou deux instruments, quelque chose de très minimal?
Ouais. Oui, c'est. Moi, je suis extrêmement fasciné par les choses très simples et très brutes. Mais en fait, c'est une erreur de penser que parce que c'est simple et brut, c'est pas précis. Et en fait, c'est le haïku, quoi. C'est. Ok, il y a un coup de pinceau ou il y a une phrase. Mais elle est parfaite. Enfin, la sincérité, l'intention est au laser, quoi. Enfin, ça me fascine. Ouais.
Donc, il y a quelque chose qui t'intéresse dans ces formes très, très minimales, alors que toi, ta musique est toujours très, très, très composée, avec beaucoup de niveaux qui se superposent.
Ah oui. Il y a beaucoup plus de choses, parce que juste moi, enfin, je parle du coup de pinceau, du japonais qui fait sa calligraphie avec, et tout est là, ben, je suis nul pour ça. Mais c'est ça qui me fascine. L'autre jour, je mentionnais aussi, j'adore écouter des choses comme Eliane Radic, des choses vraiment très, très, très minimales. Et ça me fascine parce que c'est un peu le contraire de ma manière naturelle de faire les choses. Mais c'est ça, vers ça que j'aimerais tendre en quelque sorte. C'est aussi pour ça que je suis fasciné par la chanson, dans le sens vraiment pop, d'une chanson qui a une sorte de perfection universelle, parce que une bonne chanson, c'est quelque chose, on ne peut rien enlever, rien rajouter. La forme, elle est vraiment complètement parfaite et complètement universelle. Pour moi, c'est entre un très bon morceau, je sais pas, des Beatles et Eliane Radic, il y a ce point commun, en quelque sorte. Je sais pas si. Et moi, j'ai tendance à rajouter des trucs, de bidouiller pour faire en sorte que ça se tienne, etc. Mais je fantasme sur ce truc de la pure intention. Ouais.
Et est-ce que tu travailles à ces gestes très, très minimaux? Est-ce que tu essayes de faire des choses comme ça, qui s'approchent de choses d'Eliane Radic, de choses très...
Un peu, mais pas assez. Non, non, mais c'est aussi c'est se mettre en condition, parce que le disque à Venise, comme il y avait très peu de temps et que je m'étais fixé un cadre, je suis allé beaucoup plus dans cette direction de garder juste le geste et de pas essayer d'en rajouter, parce que c'était aussi le principe, c'était je prends que ce que j'ai enregistré là et après je fais pas d'arrangement, je fais rajoute pas de son, etc. Donc, et ça m'a vachement plu de travailler comme ça. Mais en fait, c'est se fixer des contraintes, quoi.
On arrive à la fin de cet entretien. Eh bien, je nous souhaite qu'on entende dans les années à venir de très beaux morceaux minimaux de Joachim.
Ah oui, bah j'espère.
Et merci beaucoup pour cet entretien.
Avec plaisir.
À bientôt. Merci.
Bah, merci. Au revoir.